Le Forum de l'aménagement durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Et oui, toujours en direct sur Radio Imo et Radio Territoria pour le Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM, seconde après-midi. Et nous allons parler décarbonation, comment décarboner la filière aménagement. Des questions, une grande question que l'on se pose. Et pour y répondre, alors deux invités avec moi en plateau. Morgane Colombert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice des études et partenariats pour Efficacity, donc l'Institut Efficacity, que vous allez nous présenter dans quelques instants.
Exactement.
Et Nicolas Gravitte, bonjour, rebonjour.
Rebonjour.
Vous êtes directeur d'EFAGE Aménagement, coprésident du Réseau National des Aménageurs et vice-président de l'UNAM. Alors, on va peut-être commencer avec vous, Nicolas, d'un point de vue global. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le bas carbone, sur justement la politique de décarbonation, dont on a parlé tout à l'heure, entre autres, avec la députée, Madame Ménier-Millefer.
Tout à fait. Bah, c'est un enjeu essentiel pour l'avenir de notre métier, pour l'avenir tout court. Et donc, comme toutes les filières industrielles, l'aménagement se devait de se pencher sur le sujet de la décarbonation. C'est un sujet qui est déjà d'actualité pour nous depuis déjà quand même pas mal d'années. On n'a pas attendu les dernières lois pour s'y mettre. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est que l'aménagement a été reconnu comme une filière. C'est-à-dire qu'à l'occasion de cette démarche sur le bas carbone, les autorités ont considéré que l'aménagement était une filière du fait de toutes les activités qu'elle engendre derrière une fois qu'on réalise une opération. Et c'est dans ce cadre-là, et dans le cadre de la stratégie bas carbone de la France, l'aménagement étant considéré comme une filière, et bien un groupe de pilotage a été monté pour réfléchir donc à la décarbonation sur l'aménagement. Et ce groupe de pilotage, donc piloté par Anne Fraisse et Jean-Marie Kemener, a rendu donc dernièrement son rapport au ministre dans l'attente de décisions à venir ultérieurement.
Donc Anne Fraisse, qui est la directrice générale Urbain des Bois et la pilote, vous l'avez dit, de la feuille de route de décarbonation de la filière aménagement promotion au ministère de la Transition écologique, qui aurait dû être sur ce plateau, mais qui n'a pas pu venir à cause des grèves.
Tout à fait.
Voilà. Donc les aménageurs, concrètement, qu'est-ce qu'ils font pour justement décarboner? Comment ils se positionnent par rapport à cette politique? Déjà, quel est leur ressenti?
Leur ressenti, c'est l'appropriation de ce sujet-là. Donc, c'est une remise en cause du métier, en tout cas sur une certaine thématique de notre métier. Donc, à chaque fois qu'on aborde une opération d'aménagement en lien toujours avec la collectivité locale concernée, évidemment, on réfléchit aux conséquences de nos projets sur des sujets tels que la mobilité, sur les sujets liés à l'énergie, comment alimenter de manière énergétique nos opérations, nos logements, nos immeubles. Réfléchir aux procédés constructifs, voilà, comme mettons en avant la construction bois, la construction, les matériaux biosourcés, etc. Donc c'est toutes ces thématiques-là qui aujourd'hui sont au devant et les aménageurs doivent bien entendu en tenir compte.
Donc c'est des nouvelles contraintes.
C'est des nouvelles contraintes, c'est l'économie circulaire, comment recycler les matériaux lorsqu'on intervient sur des sujets de démolition des constructions, par exemple. Voilà, donc c'est toutes ces thématiques-là qu'on doit mettre en avant. La stratégie, le rapport qui a été remis par les copilotes indique quand même que l'aménagement, ce sont plutôt les conséquences de l'aménagement qui ont un impact carbone relativement important. Le métier intrinsèquement de l'aménagement n'émet pas forcément beaucoup de tonnes de CO2, mais c'est toutes les conséquences de notre métier, de nos projets, qui émettent des tonnes de CO2 relativement importantes.
Alors Morgane, on va parler donc d'Efficacity. Donc c'est un institut de recherche et de développement pour la transition énergétique et écologique de la ville. Quand a été créé Efficacity?
Alors ça a été créé il y a une petite dizaine d'années, un peu moins de 10 ans, par l'État, donc à l'initiative de l'État. Et l'objectif, c'était vraiment de réussir à réunir chercheurs, experts dans le domaine de la transition énergétique des villes pour que finalement tout le monde se mette autour de la table pour aller créer des outils qui soient opérationnels et à destination des acteurs de l'aménagement. Donc au début, on était très recherche, on va dire, et puis depuis plusieurs années, on est vraiment dans des phases de développement avec des outils qui sont aujourd'hui opérationnels, commercialisés, testés avec un certain nombre d'acteurs de l'aménagement.
Alors, il y a plusieurs enjeux hein, pour vous. Le premier, c'est peut-être l'enjeu de l'évaluation. Avant la décarbonation, en fait, il faut mesurer l'impact carbone d'un projet. Pourquoi ?
Alors, l'objectif, c'était vraiment, finalement, que pour l'aménageur, l'euro soit aussi important que le carbone, donc déjà chiffré. Donc, chiffrer aussi l'impact carbone d'un projet d'aménagement et donc apporter de la quantification parce que finalement, en mesurant, on prend conscience finalement des différents contributeurs à l'impact carbone de notre projet d'aménagement. Donc, ça permet de commencer à amener des ordres de grandeur et de se poser la question finalement de où est-ce que ça peut être pertinent d'agir, avec quel levier d'action je peux aller agir pour influencer cette décarbonation finalement de notre projet.
Alors quand vous parlez de la quantification de l'impact carbone, c'est j'imagine pendant la construction et aussi après, pendant l'usage en fait, une fois que le projet est sorti de terre, l'usage en fait que l'on fait de ce projet, ça compte aussi.
Exactement, l'objectif c'est vraiment d'intégrer l'ensemble du cycle de vie finalement d'une opération d'aménagement. Donc que ce soit sa phase chantier, sa phase de vie, mais également sa fin de vie. La logique de développement, enfin, quand on a commencé à développer, eh ben, on va en parler, le logiciel Urban Print, donc qui intègre cette échelle du quartier de l'opération d'aménagement, c'était vraiment de se dire aujourd'hui, on a un certain nombre d'outils qui ont été élaborés à l'échelle du bâtiment. On comprend très bien aujourd'hui l'impact carbone du bâtiment. Attaquons cette échelle un petit peu au-dessus de l'opération d'aménagement. Créons finalement, on avait bâtiment E plus C moins, créons quartier E plus C moins. Donc pour ça, on a d'ailleurs été soutenu par l'ADEME. Et l'objectif, c'était vraiment d'amener, au-delà du promoteur et de bâtiments E plus et moins, d'autres acteurs de l'aménagement à prendre conscience qu'ils avaient un impact, mais ils avaient également des leviers. Et que finalement, ce ne soit plus uniquement à l'échelle du bâtiment qu'on intègre des objectifs de performance carbone, mais qu'on finalement, on acculture et on permette à l'aménageur de saisir dans quelle mesure, lui aussi, a des leviers d'action qui peuvent permettre de faciliter d'ailleurs la possibilité qu'a un promoteur de respecter un certain nombre de performances énergie carbone.
Alors vous avez évoqué le logiciel Urban Print que vous avez co-développé avec le CSBT et en soutien avec l'ADEME aussi, je crois, qui vous a soutenu pour ce logiciel. Pour répondre à un enjeu majeur, l'autre enjeu majeur, du coup, c'est d'accompagner l'accompagnement, pourquoi c'est primordial d'accompagner en amont aussi et pendant ?
Exactement. Alors, en effet, donc l'ADEME a financé le développement de la méthode quartier énergie carbone. C'est une méthode qui est publique, qui est disponible dans la librairie ADEME, qui décrit une 150aine de pages, je pense. Mais ça décrit vraiment la manière dont on peut faire l'évaluation quartier énergie carbone donc d'une opération d'aménagement. Et le logiciel Urban Print, donc, est co-développé en effet par Efficacity et le CSTB. C'est finalement le logiciel qui permet de faire une évaluation selon la méthode quartier énergie carbone. Et en effet, une des boussoles au moment du développement de la méthode quartier énergie carbone, c'était vraiment de ne pas arriver a posteriori, une fois que tous les choix sont faits, mais vraiment d'arriver dans ces phases de conception qui sont très importantes et de pouvoir amener l'aménageur à comparer finalement différentes variantes de son projet, identifier finalement s'il fait mieux que le business as usual, donc donner un certain nombre d'informations et d'évaluations là-dessus. Alors, je pense qu'on a eu de la chance. Il y a un certain nombre d'expérimentations à l'échelle, par exemple, du bâtiment, comme bâtiment E plus C moins, qui ont permis de constituer un certain nombre de bases de données, de bases de connaissances sur le bâtiment, qui nous permettent aujourd'hui, enfin, on s'appuie dessus, qui nous permettent de faire ces évaluations en phase amont de conception. Et donc, quand je dis phase amont de conception, ça veut dire que l'objectif, c'était vraiment de créer un outil qui est en données minimales, finalement, de saisie dedans, des données dont dispose l'aménageur. Donc typiquement, on ne va pas lui demander l'épaisseur d'isolant qu'il met dans ses bâtiments. Il n'en est pas du tout à ces étapes de conception quand il est dans ses phases amont de conception. Et l'objectif, c'était qu'il puisse mesurer finalement l'effort qu'il avait déjà consenti par rapport à un projet de référence. Donc il a fallu définir c'est quoi ce fameux projet de référence. Et également qu'on puisse l'aider à identifier les leviers d'action sur lesquels il peut agir.
Nicolas, peut-être une petite réaction sur justement cet accompagnement avec ce logiciel Urban Print. En quoi est-il primordial pour en tant qu'aménageur ?
Alors, il est primordial et il se trouve qu'avec Efficacity, on est en train de nous le tester chez nous, chez FH Aménagement. On est vraiment en plein dedans. Et les premiers retours des équipes sont très satisfaisants. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience de ce que génère un projet, la façon dont on le conçoit, parce qu'on le travaille au moment de la conception des quartiers, et de le travailler pour améliorer le projet, améliorer le plan, améliorer la programmation, pour avoir des offres les plus performantes possibles. C'est très important également lorsqu'on est en phase de concours, de consultation, d'avoir à nos côtés, avec nous, ces outils pour aller défendre auprès des décideurs l'intérêt de choisir telle ou telle solution, qui n'est pas forcément la solution que tout le monde aurait imaginée au départ, la solution intuitive, mais le logiciel peut nous permettre de trouver des bonnes solutions et de convaincre. Donc oui, c'est assez performant, on n'a pas encore fini tout le travail de retour, c'est en cours, mais c'est très intéressant. Oui.
Alors, on parle beaucoup de ChatGPT en ce moment. Est-ce que l'intelligence artificielle serait donc la solution ? L'intelligence numérique et artificielle, oui.
Alors, je ne sais pas si c'est la solution, mais ça fait sans doute, on va dire, partie ce type d'outil fait sans doute partie du portefeuille de solutions et d'outils que l'aménageur peut venir mobiliser. C'est vrai que c'était évoqué un peu ce côté retour d'expérience que l'on a sur différentes opérations. Depuis que les premières versions du logiciel sont sorties, donc depuis 2021, je pense qu'on commence à tester le logiciel. Il y a une soixantaine d'opérations qui sont accompagnées. Donc c'est une soixantaine d'opérations qui, nous, derrière, nous permettent soit d'améliorer le logiciel.
Mais c'est aussi un large panel au final, hein.
C'est un large panel. Ça permet aussi de prendre conscience de l'intérêt justement d'aller faire sa propre évaluation, puisque finalement, d'un projet à l'autre, on va être sur un contexte territorial qui peut être très différent. Donc les grands contributeurs qui participent à l'impact carbone peuvent être très différents d'un projet à l'autre. Donc finalement, ça permet de revenir à son projet et de plus travailler sur des ratios qu'on pouvait appliquer communément d'un projet à l'autre. Et ça permet de mieux comprendre ce qui était évoqué, c'est-à-dire que finalement, ça appuie énormément l'aide à la décision et toutes les discussions arbitrages qu'il peut y avoir quand on va discuter avec une collectivité. Il n'y a pas très longtemps, on échangeait et en fait, il y avait un projet d'aménagement qui atteignait finalement des niveaux de performance, on va dire, moyens. Et c'était intimement lié finalement au type de réseau de chaleur sur lequel il se connectait et qui n'était pas encore 100% finalement décarboné. Et mine de rien, ça donne un certain nombre d'arguments pour aller voir la personne qui gère ce réseau de chaleur et lui dire, il faut vraiment que tu intègres beaucoup plus d'ENR, d'énergie de récupération, etc., enfin, qu'il verdisse son réseau. Sur l'arbitrage aussi de choix énergétiques, même si parfois l'intuition permet de répondre à la question, mine de rien, d'arriver avec des chiffres, Ça assoit finalement la décision et ça permet plus facilement, on va dire, d'emporter certaines décisions. Donc, c'est vrai que les retours...
C'est bien d'avoir les deux, en fait.
C'est bien d'avoir les deux. Et les premiers retours d'expérience aussi que l'on a sur ces soixantaines d'opérations, c'est le souhait, la volonté. Enfin, il y a un fort intérêt des acteurs de l'aménagement pour quantifier l'impact carbone de leur projet et de partager ces évaluations dans le sens partager en fait entre eux, échanger sur qu'est-ce que ça veut dire évaluer l'impact carbone de mes projets, tiens, quel type de levier vous avez eu, quel type de difficulté vous avez quand vous mettez en place cela. Il y a aussi
de la pédagogie,
ce souhait,
en fait.
Exactement, la pédagogie autour de l'évaluation carbone est fortement souhaitée. Donc,
et ça, vous le ressentez vraiment, hein, ça fait part... Vous ressentez, vous aussi, Nicolas, que les aménageurs ont besoin d'être
soutenus,
accompagnés, qu'on
leur explique. Les aménageurs et nos clients, collectivités, qui ont aussi besoin de comprendre, d'appréhender ces calculs. Quand on parle d'équivalent tonne carbone, mais ça veut dire quoi ? Tout le monde a du mal à le comprendre. Donc, effectivement, ces logiciels nous aident à faire de la pédagogie vis-à-vis de nos clients, c'est clair.
En fait, le logiciel vient vraiment en soutien de l'humain. L'humain s'appuie dessus, hein, au final.
Exactement, et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que donc on évalue l'impact carbone, on va dire, de l'opération d'aménagement, on va dire avec tout ce qui est flux physique, etc. Mais on intègre aussi l'empreinte carbone, par exemple, du futur habitant, en intégrant d'autres éléments qui sont un peu moins de la responsabilité, on va dire, de l'aménageur, tout ce qui est biens de consommation, mobilité
vraiment l'usage distance, pur et dur.
L'usage pur et dur. Et mine de rien, bon, donc, déjà, ça permet de voir que le 2 tonnes d'équivalent carbone à horizon 2050, il ne se fera pas uniquement en s'appuyant sur l'aménageur. Donc, ça permet d'engager aussi des discussions avec la collectivité, avec le futur usager sur les impacts qu'il peut avoir et comment lui aussi peut finalement engager un certain nombre d'actions pour diminuer cette empreinte.
Les 60 projets sur lesquels le logiciel est testé, ce sont des projets situés où dans toute la France? Est-ce que ce sont des projets différents? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples?
Alors oui, c'est des projets situés sur toute la France métropolitaine. Aujourd'hui, on va tropicaliser, comme on dit, certains de nos outils. Mais aujourd'hui, c'est un outil qui permet d'accompagner les opérations d'aménagement en France métropolitaine. Donc c'est des opérations partout en France qu'ont pu être accompagnées. Dans le dense, dans le périurbain, dans le rural. Donc, on a différentes diversités qui permettent de voir justement comment les différents contributeurs impact peuvent évoluer d'un projet à l'autre. Ce qu'il faut dire, et ça, c'est quelque chose qui est fortement poussé par l'ADEME et que l'on va accompagner, c'est qu'il y a l'objectif, donc on est en train de commencer à définir la forme que ça pourrait prendre, mais l'objectif, c'est de sortir une forme d'observatoire quartier énergie carbone pour mettre à disposition l'ensemble des évaluations que l'on met. Alors, en traitant sans doute parfois la question de l'anonymisation, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de mettre son évaluation énergie carbone de façon publique, certains le feront peut-être, mais voilà, l'objectif, c'est d'aller valoriser aussi ces évaluations, et toujours dans la démarche qu'on disait d'acculturation, de partage d'expérience qui est précieuse pour les acteurs de l'aménagement.
Eh bien, merci infiniment à vous deux. Merci Morgane Colombert, merci Nicolas Gravitte pour cet échange passionnant sur la décarbonation.
Le Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria.